Et Junkie, la question n'était pas si, mais quand. Pas peut-être, mais comment? Une overdose? Un accident pendant que vous étiez défoncé? Une hallucination qui vous faisait croire que vous vous baladiez dans les montagnes du Colorado, quand en fait vous traversiez les 6 voies de la voie express Brooklyn-Queens? Une fois encore, les risques du métier. Mais Rebecca était différente. Rebecca était la seule qui comptait vraiment. Et pas seulement parce qu'elle lui rappelait Caitlin. Ce n'était pas qu'elle était orpheline ou qu'elle avait un abruti de camé en guise de frère. Ni que ses amis à Saint-François d'Assise la considéraient comme une fille drôle, gentille, jolie. C'était autre chose. Un rappel que si personne ne faisait attention à vous, si personne ne gardait un œil sur vous, alors le monde et toutes ses merveilles vous dévoreraient en un clin d'œil. Vous étiez là? Puis soudain, vous étiez parti. Pourquoi s'était-elle enfuie auprès de son frère? Pourquoi avait-elle abandonné Williamsburg pour Brooklyn? Pourquoi s'était-elle fait couper les cheveux et vernir les ongles? Avec qui avait-elle eu un rapport sexuel? Était-il consensuel? Il se demanda si des examens toxicologiques avaient été effectués. Il décrocha le téléphone et appela le bureau du coroner. Il donna le numéro de l'affaire, le nom de Rebecca, et attendit pendant que la réceptionniste faisait les recherches. Pas d'examen toxicologique, finit-elle par annoncer. Aucun prévu. Il vous en faut un? S'il vous plaît, oui, répondit Parrish. On m'a dit qu'on en aurait un, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Eh bien, quelqu'un s'est emmêlé les pinceaux, pas vrai? Je le note, mais ça devra attendre lundi. Je n'ai pas beaucoup de monde ici pour effectuer les examens toxicologiques en retard. Quel est votre nom? Elle le lui donna. Je vous rappellerai lundi après-midi pour voir où ça en est. D'accord, inspecteur. Passez un bon week-end. Parrish raccrocha, nota dans son agenda de rappeler lundi. Il acheva son rapport, le déposa dans la bannette près de la porte, puis il tira le reste de l'argent de la boîte à cigares située dans le tiroir inférieur de son bureau. Vous partez? Demanda l'un des agents en uniforme lorsque Parrish gagna le couloir. Ça ne risque pas, répondit-il. Je suis ici pour la journée. Vous êtes toujours à pied? Oui, jusqu'à janvier. Je récupère mon permis après le nouvel an. L'agent fit un commentaire, mais Parrish ne l'entendit pas, tandis qu'il descendait l'escalier en direction du bureau de Mary Griffin. Chapitre 19. Vous avez entendu parler des papiers de Malaki? Ça me dit quelque chose. Joseph Malaki, le premier type à avoir brisé la loi du silence dans la mafia. Son témoignage a été une révélation. Il a permis aux gens de voir le fonctionnement de ce qui n'était alors qu'un mythe. Tout remonte à un type nommé Joseph Masseria au début des années 1930. Masseria avait décrété que tous les membres de la pègre originaire d'un endroit nommé Castelmare del Golfo en Sicile devaient être liquidés. Ce qui a suivi a été appelé la guerre des Castelmarese. Une faction était menée par Masseria. L'autre par un certain Salvatore Maranzano. Les autres gangs étaient alliés soit à l'un, soit à l'autre. Vito Genovese, Lucky Luciano, Dutch Schultz et Al Capone soutenaient Masseria. Mais en 1931, Masseria a été assassiné sur ordre de Luciano. Et ça a mis fin à la guerre. Maranzano a alors rassemblé environ 400 personnes de toutes les différentes familles, afin de structurer leurs activités et leur territoire. Il a lui-même été assassiné quelques mois plus tard, mais la structure qu'il a mise en place tient encore de nos jours. Ils ont commencé à infiltrer les commerces légaux dès le début. Vous avez entendu parler d'Arthur Miller, n'est-ce pas? Le dramaturge qui a été marié à Marilyn Monroe, lui-même. Eh bien, dès 1951, le New York Daily Compass l'a chargé de suivre les auditions du sénateur Estes Kefauver sur le crime organisé. Il commençait déjà à apparaître que la mafia contrôlait les syndicats dans les quartiers de la ville qui comportaient des docks. Columbia, Union Street, le quartier de Red Hook, c'est de là que venaient Capone et Frankie Yale, et d'autres de la Murder Incorporated. Même à l'époque, ils avaient déjà institué un système nommé le Shape-Up. C'est-à-dire, en gros, ça signifiait que les dockers et les débardeurs n'avaient pas de contrat de travail. Ce qui voulait dire qu'ils devaient se pointer chaque jour et être embauchés chaque jour. Comme ça, tout le monde se tenait à carreau. Tout le monde était reconnaissant d'avoir du boulot. Et ils acceptaient des salaires de misère. Nombre de ces types se souvenaient de la Grande Dépression. Et s'ils ne l'avaient pas personnellement vécu, ils en avaient entendu parler de la bouche de leur père. En 50 ans, 24 familles criminelles différentes ont opéré aux États-Unis. Chaque ville était généralement dirigée par une seule. Mais New York était la seule à en avoir plusieurs. Il y en avait cinq ici. Les Genovese, les Gambino, les Lucchese, les Bonanno et les Colombo. En 1983, un type nommé William Webster dirigeait le FBI. Il a affirmé devant la commission du président sur le crime organisé qu'il y avait environ 17 000 soldats et environ 700 made men. Des made men, c'est un rang, un statut si vous préférez. Il est attribué à un individu par la famille pour laquelle il travaille. Un made man ne peut pas être tué par une autre famille sans autorisation expresse du chef de sa propre famille. Par exemple, imaginons qu'un Gambino veuille tuer un made man de la famille Colombo. Eh bien, la règle dit qu'il ne peut pas le faire tant qu'un chef de la famille Colombo ne lui aura pas donné le feu vert. Et les familles contrôlaient complètement les syndicats et les docks. Elles contrôlaient beaucoup plus que ça. Elles avaient infiltré l'habillement, le bâtiment, la fourrure, les boutiques de fleuristes, la totalité du marché de Fulton. Elles possédaient des boucheries, des funérariums, des échoppes de barbiers, des sociétés de livraison de lait, de fabrication de carton, de lavage de vitres, et tout un réseau de taxis qui couvrait tout le quartier. Elles dirigeaient tout, dans le moindre détail. Et quand quelqu'un a annoncé que l'ancien club de golf d'Idlewild allait être transformé en aéroport, elles ont compris que c'était la poule aux œufs d'or. 50 000 employés, 10 000 places de parking, 12 000 hectares rien que pour commencer. La masse salariale, Idlewild, représentait un demi-milliard, et je vous parle simplement du milieu des années 1950. Ces types venaient de l'est de New York, South Ocean Park, Howard Beach, Maspeth et Rockaways. Tout le monde voulait sa part du gâteau. Et la vérité, c'est que le putain de gâteau était si énorme qu'il pouvait continuer de se servir encore et encore, et il en restait toujours. Et la police? Et les autorités qui géraient l'aéroport? De quoi? Eh bien, n'avaient-elles pas mis en place un système de surveillance? La police locale n'assurait-elle pas la sécurité de l'aéroport? L'autorité portuaire avait plus de 100 agents en uniforme à l'intérieur de l'aéroport chaque jour. Il y avait des inspecteurs des douanes, le FBI, des renforts de police venus du 103e district, mais on parle de 12 000 hectares de terrain et de bâtiments. Prenez, par exemple, le bâtiment de la douane américaine. Je ne sais plus combien d'étages il comporte, 10, 12, quelque chose comme ça. Un endroit immense, des allées et venues permanentes, aucune sécurité à proprement parler. Et c'était là que se trouvaient les casiers dans lesquels étaient rangés les bons d'expédition et de chargement de toutes les cargaisons qui passaient par l'aéroport. Au début des années 1960, il y avait pour 30 milliards de marchandises qui transitaient par Idlewild. Alors si l'aéroport perd pour 30 millions de dollars de trafic, ça ne représente qu'un dixième de 1%. Même 300 millions ne représentent que 1%. Ils font jouer leur assurance. L'assurance rembourse, puis elle augmente le montant des primes, ce qui est au bout du compte beaucoup moins fatigant qu'employer plus d'agents de sécurité, sans compter le coût, vous savez. Pour ce qui était de l'aéroport, ça faisait partie du business. Et les agents de police qui étaient sur place, ils recevaient aussi des pots de vin? Bien sûr que oui. Les flics, les agents des douanes, même certains types du FBI. Prenez les billets d'avion par exemple. Des types débarquaient avec des douzaines de cartes de crédit volées et ils achetaient toute une palanquée de billets. Après quoi, ils les revendaient contre des espèces, parfois à prix cassé. Frank Sinatra a effectué une tournée grâce à un paquet de billets d'avion volés. Plaisanter? Absolument pas. Il avait un manager nommé Dante Barzottini, qui a acheté pour 50 000 dollars de billets d'avion à quelqu'un qui les avait payés avec des cartes de crédit. Il s'en est servi pour transporter Sinatra et 8 autres personnes à travers le pays. Barzottini s'est fait choper pour ça, et il a été envoyé derrière les barreaux. Et personne ne s'est jamais présenté pour témoigner contre ces gens. Il y a eu des tentatives, naturellement, mais les gens se faisaient descendre. Informateurs, témoins, jusqu'à une douzaine par an. Et ce qui rapportait le plus d'argent à ces types, c'était les détournements. C'était les rois du détournement. Vous vous souvenez que j'ai évoqué Jimmy Burke? Eh bien, il était si doué pour les détournements que la famille Colombo à Brooklyn et les Lucchese dans le Queens se partageaient ses services. C'est le seul et unique exemple que je connaisse d'un type travaillant pour deux familles différentes. Il avait des gens dans sa propre équipe.